Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Salut les fous du volant, premier enclenché, on lâche doucement l'embrayage pour un nouvel épisode de votre podcast consacré à la Formule 1. Aujourd'hui, on va vous prendre un petit peu par surprise, on va parler d'une discipline qui donne le sentiment d'arriver à saturation. C'est en tout cas le verdict qu'on peut tirer d'un sondage paru récemment et dont les responsables de la discipline feraient bien de tenir compte. Et puisque le titre des pilotes devrait revenir, sauf cataclysme, à Max Verstappen dès le week-end prochain, eh ben on va se poser la question, qui sera vice-champion du monde? Et on va s'engager, faire un pronostic. Stéphane, t'es prêt à prendre des risques?
Oui, alors je ne connais pas le tien, donc on va comparer, on va recroiser. J'ai peur que ce soit le même. On va voir.
On va voir ça. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Alors maintenant, on va parler de cette F1 qui donne peut-être le sentiment d'arriver à saturation. Je m'explique. Le week-end prochain aura lieu le Grand Prix du Qatar, 17e épreuve de la saison, et 15 jours après le titre des constructeurs pour Red Bull, la couronne des pilotes devrait revenir à Max Verstappen. Et il y a une sorte de malaise, en tout cas on a le sentiment que les planètes ne s'alignent plus vraiment pour la Formule 1. Alors est-ce que c'est dû à la domination sans partage de Red Bull depuis la saison dernière, qui lamine les efforts faits pour ouvrir la discipline à des nouveaux fans? Est-ce que c'est ce titre qui devrait tomber, on va en parler, au terme de la course sprint samedi, qui gâche un peu le spectacle? Et pour couronner le tout, donc il y a ce sondage sur les tendances des réseaux sociaux. Il y a un autre sondage qui est paru, Stéphane, on va commencer par ça, et qui dit que Verstappen ne sera jamais considéré comme le GOAT, hein, le greatest of all time, autrement dit le plus grand de tous les temps. C'est un sondage qui a été publié sur Express Sport, c'est donc un sondage qui est fait en Grande-Bretagne, plus de 8000 personnes interrogées, et qui nous livre ce résultat. Le GOAT, c'est Lewis Hamilton, devant Michael Schumacher, 3e Ayrton Senna, 4e Sébastien Vettel, 5e Alain Prost. Max Verstappen, qui, là, c'est plus qu'une question de temps, avec ce 3e titre, rejoindra Ayrton Senna, Niki Lauda, Nelson Piquet, Jackie Stewart, Jack Brabham, eh ben, il ne figure pas dans la liste de ceux qui pourraient devenir GOAT. C'est une sorte de mal-aimé.
Bah, les gens se projettent même au-delà de ça, parce qu'il pourrait peut-être avoir un jour 7 titres mondiaux. Et les gens disent de toute façon non. Pour nous, il n'a pas la stature. Et c'est un vrai choc pour moi, je dirais, parce que s'il a 7 ou 8 titres, il sera forcément considéré comme le plus grand. Mais il a quelque chose dans sa personnalité qui ne le place pas au même niveau que Lewis Hamilton. On a l'impression qu'il a une vie que sur les circuits. Alors, il vit pour la Formule 1, et c'est la raison première de sa réussite, c'est vrai. Mais Lewis Hamilton a une dimension en dehors des circuits, et c'est ce qui fait une grande différence. Et puis, il y a le style aussi sur la piste, il y a plein de choses comme ça. Et pour 49% des gens, quand même, une personne sur deux, il n'y a pas d'hésitation possible. Et puis, Schumacher est quand même assez est deuxième, mais il n'est pas tout proche. Il n'y a même pas match par rapport à Hamilton. Et puis, Verstappen, il n'est même pas cité. Ça ne leur vient pas à l'esprit. Donc, quelque part, ça signifie, là, ce qu'on constate ici et là, c'est que Verstappen n'a pas encore mis son empreinte dans l'histoire de la Formule 1. C'est certainement un champion extraordinaire, mais il n'a pas... il coche pas toutes les cases. Senna, c'était le personnage mystique, mystérieux, l'écorché vif. Il y avait voilà, Prost, c'était
l'artiste,
le professeur.
Sous la pluie aussi.
Oui, tout à fait. Loda, c'était l'ordinateur, c'était son histoire, son retour après son accident grave, etc. Et puis Verstappen, c'est un petit peu plus lisse, même si le travail est très très bien fait, mais il lui manque une dimension autre au-delà du sport.
Alors, dans ce que tu nous dis, il y a une dimension qui me paraît très très importante. À un moment, tu as dit, il n'est pas encore. Bah oui, mais il faut attendre. D'abord, il va avoir, entre guillemets, que 3 titres. Laissez-lui le temps d'aller en chercher d'autres, déjà. Et puis ensuite, les personnes qu'on a interrogées, là, qui ont donc répondu à ce questionnaire sur Express Sport, forcément, ils ont un certain âge. Quand tu vas dans les paddocks et que tu regardes au niveau du merchandising, les mômes, eux, quand tu leur demandes si tu veux leur acheter une petite miniature, ils ne vont pas te demander la voiture de Lewis Hamilton. Ils vont te demander la voiture de Max Verstappen.
Ah bah sur les circuits, c'est Red Bull et Mercedes, très très loin devant, tout le reste, y compris Ferrari.
Et donc, je pense qu'il va falloir quand même un certain temps avant que ces minots-là deviennent suffisamment grands pour répondre à leur tour à ces sondages. Je pense que... puis, c'est un sondage qui est fait donc sur des lecteurs britanniques. ils ne vont pas mettre Alain Prost ou Max Verstappen devant un des sujets de sa majesté. Donc, attention à ce sondage. Pour l'instant, il est trop jeune encore. Imaginons, moi, ça me paraîtrait plutôt bizarre qu'on dise aujourd'hui, Max Verstappen, c'est le GOAT. Non, attendez, laissez-le avancer dans sa carrière, éventuellement terminer sa carrière, parce que même Lewis Hamilton, il peut encore en rajouter des titres. On verra après. Pourtant, Stéphane, on va avancer sur le sujet. Pourtant, c'est un de ceux qui domine le plus son coéquipier. Tu t'es livré à un exercice qui est très très intéressant, c'est le pourcentage de points marqués par le coéquipier du champion du monde. Et on est sur un des deltas les plus importants de l'histoire entre celui qui est champion du monde, celui qui va le devenir, et son coéquipier à voiture égale. C'est la vraie comparaison.
J'ai regardé les saisons qui se terminent par un champion du monde et son coéquipier deuxième, et j'ai regardé à quel point ce champion avait parfois dominé son coéquipier pour montrer son emprise. Alors le champion des champions, c'est Mansell. Face à Patrese, Patrese ne marque en 1992 que 51,9, moins de 52% des points de Mansell.
Un tout petit peu plus de la moitié, quoi.
Ouais. Oui, tout à fait. Et puis, il y a cette saison particulière après ces 97, Villeneuve, champion du monde, devant officiellement, il faut le rappeler, Ensaral Frenzen, puisque Michael Schumacher avait été exclu du championnat. Et là, c'est le même pourcentage. Alors, je ne sais pas si on devrait réellement le compter, parce que c'est vraiment Schumacher qu'on a vu et pas Frenzen. Il n'y a pas eu match là-dessus. Et puis, le troisième exemple, c'est Schumacher qui avait écrasé Barrichello en 2002 avec 53,5% des points seulement pour Barrichello. Mais tu me l'as fait remarquer tout de suite.
Il avait laissé une victoire. Ça avait fait beaucoup, beaucoup jaser d'ailleurs en Autriche.
Et il était tout le temps dans le plan B en termes de stratégie. Il avait toujours la mauvaise solution quand il y en avait une qui était préférentielle et réservée pour Schumacher. Et donc, ça veut dire que là, cette année, eh bien, on a Verstappen qui est presque dans ce top 3, puisque Perez n'a marqué que 55,8% des points de Verstappen. C'est faible. Alors, sur 23 championnats, enfin 22 jusqu'à présent, qui se sont terminés avec un champion devant son coéquipier, eh bien, la moyenne des points marqués par le coéquipier, c'est 77%. Ouais. Donc, c'est beaucoup quand même. Et là, Checo, il est loin du compte.
Alors, est très loin du compte. Est-ce que c'est Checo qui est loin du compte ou est-ce que c'est Verstappen qui, finalement, domine outrageusement son coéquipier? Dans mon idée, c'est de dire que bah, ce n'est pas mérité, ce sentiment qui sera jamais le meilleur de tous les temps, parce que c'est un de ceux, là on a parlé de Schumacher, voilà, c'est un des GOAT, un de ceux qui peut être considéré comme un des meilleurs pilotes de tous les temps. Donc on est vraiment dans des données qui ressemblent un petit peu à celles de Schumacher.
Il ne se met pas en danger, il n'a jamais eu comme coéquipier un champion du monde titulaire. Dans un des précédents podcasts des Fous du Volant, on a vu que c'était Lewis Hamilton qui était le roi dans ce domaine. Je crois qu'avec 10 saisons avec un coéquipier champion du monde.
Je crois que Schumacher non plus. Hein.
Non, exactement. Donc ça, c'est ce qui nous retient de dire qu'effectivement, pour l'instant, il peut être un grand coéquipier. Alors Schumacher, il y avait l'effet Ferrari qu'on met vraiment à part. Mais c'est vrai que là, il y a comme un sentiment d'inachevé qui va être renforcé aussi par ce troisième titre que Verstappen pourrait obtenir dès la course sprint au Qatar.
C'est là aussi un des points qui, alors c'est encore pas de la faute de Max Verstappen, le pauvre, mais le Néerlandais qui pourrait devenir triple champion du monde à l'issue de la course sprint qui se déroulera samedi au Qatar. Alors on va vous donner rapidement les conditions. Hein. En gros, il ne doit pas perdre plus de 5 points par rapport à Sergio Pérez. Autrement dit, si Pérez gagne, Max Verstappen a besoin de terminer 6e de la course sprint et il est assuré d'être champion du monde. Si Pérez termine 2e, à ce moment-là, Verstappen peut se contenter de la 7e place. Et puis on décompte comme ça au fur et à mesure. Ce qu'il faut retenir, c'est voilà, moins de 5 points de perdu et c'est bon. Max Verstappen est triple champion du monde. Bon, autrement dit, il y a à peu près toutes les conditions pour que le titre soit donc joué samedi, ce qui pose un problème, parce que dans son équipe, on le dit, non, il ne faut pas être titré samedi, parce qu'on ne peut pas faire la fête, samedi soir.
C'est les mécaniciens qui ont dit ça.
Il y a même... je trouve ça assez génial et assez symptomatique, finalement, de cette situation dans laquelle la Formule 1 s'est mise, à vouloir absolument faire des courses sprint, à vouloir les doter d'un tiers des points par rapport à un Grand Prix, et on se retrouve avec une fête qui pourrait être... c'est un peu bizarre, après... après une course sprint le samedi, avant le Grand Prix. Oui. Autrement dit, s'il est, et on le répète, s'il est champion du monde samedi, le Grand Prix de dimanche, la couronne des constructeurs, elle est attribuée, déjà, depuis le dernier Grand Prix au Japon, et puis le titre pilote aussi. Merci, au revoir.
C'est la gadgetisation de la Formule 1, comme les points bonus que tu donnes pour le meilleur tour en course, le dimanche. Verstappen, on a raflé 7. Pérez 2, ça veut dire que Verstappen il a marqué 5 points aussi par cet intermédiaire là. Alors s'il n'y avait pas eu ce fameux point bonus samedi, lors de cette course sprint, à l'issue de cette course sprint, Verstappen aurait besoin d'une victoire sans que Pérez ne marque de points. Donc on serait dans un cas de figure quand même beaucoup plus défavorable.
Il aurait fallu attendre un petit peu plus.
Avec un titre normalement décerné plutôt le dimanche en course et tout le monde serait content. Et c'est là où on voit que ces gadgets, je ne sais pas comment dire autrement, ces artifices créés par le promoteur, se retournent un petit peu contre tout le monde.
Je peux peut-être te proposer une formulation, parce que moi j'ai écrit en préparant ce podcast, parce que tu sais que je prépare un peu ce podcast. C'est l'aboutissement d'une volonté de rajouter de l'événement qui aboutit à affaiblir l'événement.
C'est tout à fait ça. Et puis surtout que là, sur les deux derniers Grands Prix, même sur les trois derniers Grands Prix, est-ce que tu serais capable de me dire qui a fait le meilleur tour en course à Monza ?
Non.
C'est Piastri, voilà. Et puis, c'est passé, mais complètement à côté, et tout le monde s'en fiche. Sur les deux derniers Grands Prix aussi, c'est un non-événement. On a cru qu'au départ, ça allait faire de la hype, etc. Là, ça, c'est créé pour une chose, c'est... pour donner de la visibilité à des sponsors. On fabrique des graphiques dans tous les sens, des power rankings qui sont sans queue ni tête, vraiment. Mais qu'on ajoute en fait de l'information en pensant qu'on va faire parler du sport. Maintenant, pas du tout, ça ne prend pas. Puis là, effectivement, les gens vont trouver ça bizarre. Tiens, samedi soir, il y a plein de gens qui ne sont pas au courant que Verstappen pourrait être champion samedi soir.
Oui, ils peuvent arriver dimanche devant leur télé en disant « Comment ça, il est titré ?»
J'ai raté quelque chose.
Ouais, exactement. Tout à fait. Alors, on a parlé du sondage qui disait que 49% des lecteurs de ce site britannique Express Sport considéraient que Max Verstappen ne serait jamais le meilleur pilote de tous les temps. Il y a d'autres chiffres qui là concernent la discipline et qui sont plus inquiétants, on va dire. C'est une étude menée par Buzz Radar. C'est une société qui analyse les tendances sur les réseaux sociaux. Et là, les chiffres sont vraiment très très forts. Le nombre de mentions, vous savez, quand vous êtes sur Twitter, maintenant X, ou sur Snapchat, ou sur tous les réseaux sociaux, le nombre de mentions est passé de plus de 6 millions sur les 5 premiers mois de l'année 2022, donc dans la foulée de cette conclusion hautement tragique entre ce même Max Verstappen et Lewis Hamilton fin 2021. Donc 6 millions sur les 5 premiers mois de 2022, 1,8 million sur les 5 premiers mois de 2023. On a divisé par 3 le nombre de mentions.
C'est une baisse de 71%.
C'est colossal. Le nombre de nouveaux followers, vous savez qu'on cherche du côté des instances dirigeantes de la Formule 1 à toujours ramener du sang nouveau dans la discipline, ou en tout cas dans l'audience de la discipline. On était à plus de 900 000 nouveaux followers en 2022. On est à moins de 500 000. Le nombre de nouveaux followers a diminué
quasiment par deux, moins 47%.
C'est très, très inquiétant, ce genre de signe. Et puis c'est un petit peu la conjonction de tout ça.
Les gens que l'on touche même sur les réseaux sociaux, ce nombre a baissé de 65%. On est passé de 61 milliards, je vois, en tout cumulé.
À 22.
C'est
inquiétant. Et puis, il y a surtout des mots forts, des marqueurs forts en termes de vocabulaire, Stéphane, qui sont ressortis de cette étude.
Oui, il y a des marqueurs forts en termes de vocabulaire employé. Et c'est le mot « ennuyeux » qui revient le plus souvent, qui a quasiment remplacé les mots « intéressant » et « excitant ». C'est tout à fait normal, de toute façon. Alors, après, on est dans cette série quasiment d'invincibilité de Red Bull qui se retrouve aussi là. Mais sur les 5 premiers Grands Prix de la saison, on pensait quand même qu'il pourrait y avoir un retournement.
Bah, donc, Pérez aussi.
Voilà. Donc, c'est là où on atteint certaines limites de la discipline qui a beaucoup mis en avant le business pour nous dire, attendez, bougez pas. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'on signe des nouveaux contrats, que c'est formidable, qu'on va aller sur des nouvelles destinations. Eh bien, on commence là aussi à saturer. Alors, on vous avait dit il y a quelques semaines, déjà dans les fous du volant, qu'on avait passé le pic et qu'on redescendait. On avait des gens qui observent ça dans le milieu, très précisément, qui sont autour du marketing, etc., et qui étaient convaincus de ça et que maintenant, qui disaient qu'il fallait se battre pour conserver un certain acquis. Bon, bah, le calendrier 2024 va se faire avec les mêmes épreuves que 2023. Voilà. Donc, il y a plus cette hype fantastique, par exemple, du Grand Prix de Las Vegas, où on nous dit, attendez, on a encore des choses fantastiques à venir, etc. Et ce qu'a fait le promoteur du championnat...
On va peut-être parler, parce qu'il va arriver, ce Grand Prix.
Là où il a travaillé, le promoteur du championnat, c'est sécuriser des contrats à long terme, de verrouiller le championnat le plus possible pour renforcer la valeur même du championnat. Pendant les années Ecclestone, tu te souviens, Gilles, un Grand Prix qui était sous contrat, qui avait une visibilité de 2 ou 3 ans, c'était la moyenne. 5 ans, c'était exceptionnel. Eh bien, 5 ans maintenant, c'est devenu la moyenne. Et on a 4 contrats qui sont supérieurs à 10 ans. On a même un contrat, le Grand Prix d'Australie, qui est sécurisé pour les 14 prochaines années. Et puis, on a simplement 5 contrats de 1 an et qui ne vont pas rester dans cette incertitude très, très longtemps. Et ce qui fait que le portefeuille de la Formule 1 aujourd'hui, c'est 4,6 milliards d'euros de contrats signés. C'est-à-dire que sur les années à venir, en fait, il y a... On a 120 éditions de Grand Prix qui sont sécurisées jusqu'en, je crois, de 2024 à 2037, selon différentes formes de contrats. Mais le contrat de 5 ans est devenu vraiment une norme.
Alors, dans ce que tu nous dis, je voudrais revenir sur le mot « ennuyeux » qui est ressorti de cette étude et qui me paraît finalement presque logique. Parce qu'on a... favoriser finalement une nouvelle audience qui est dans l'immédiateté, en fait. Hein. On veut une course le samedi, on veut une course le dimanche, on veut tout de suite, non, un week-end de Formule 1, normalement, ça se construit, il y a des essais libres le vendredi, il y a des qualifications le samedi, et puis le résultat, c'est la course le dimanche. Donc finalement, ces nouveaux fans de Formule 1, bah, en fait, il y a un mouvement de ressac qui est en train de se créer. C'est pas illogique parce que bah, finalement les fidèles restent et le fait que certains aient le sentiment que ce soit ennuyeux, bah, je pense qu'on en est l'exemple, nous, au Fou du Volant. En tout cas, on essaye de vous montrer qu'il se passe des choses intéressantes. Alors oui, le sommet de l'iceberg, c'est qu'il y a une série de 10 victoires pour Max Verstappen qui est assez incroyable, qui est en train d'écrire l'histoire. Ok, derrière, il se passe pas mal de choses. Un début de saison avec une voiture complètement ratée pour McLaren qui rectifie le coche. Une Aston Martin qui marche sur l'eau en début de saison avec un Fernando Alonso qui se prend arrivé et puis qui finalement se prend les pieds dans le tapis. Il y a plein de choses qui se passent. Sauf que bah, il faut s'inscrire un petit peu dans la durée, regarder autre chose que simplement qui est sur la première marche du podium pour trouver de l'intérêt. Puis donc, ouais. On en revient à ce qu'on disait. C'est une discipline qui mérite du temps, un petit peu de connaissance. C'est pas une discipline lambda où on sait tout de suite finalement comprendre exactement tout ce qui se passe sur le terrain.
On a eu l'attrait de la nouveauté avec ces courses sprint Alors c'était bien parce qu'on comparait quelque chose à zéro de l'année précédente. Donc on disait c'est formidable.
Et il y a plus,
oui,
y a plus
forcément,
de monde. Oui.
Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que maintenant on en fait 6 pour que les chiffres soient encore favorables. Mais les trois dernières courses sprint ne vont servir à rien du tout puisqu'on connaît le champion du monde. Donc constructeur, pilote, etc. Donc il n'y aura pas beaucoup de suspense par rapport à ça. Et puis maintenant on va rentrer dans une sorte de train-train, je te dis Gilles, parce que le portefeuille de la Formule 1 va être complètement rempli. On connaît les épreuves. Quel territoire nouveau y a-t-il à investir? Alors, il y en a un, c'est l'Afrique.
C'est l'Afrique, hein.
Il nous faut un Grand Prix en Afrique du Sud. Ça, c'est vraiment la prochaine avancée qu'on espère dans un pays génial. L'Afrique du Sud qui a une histoire avec la Formule 1, qui a eu un champion du monde. Ouais. Ou alors, sur un autre, dans une autre destination. Hein. Là, tout est ouvert. Il y a d'autres pays qui ont une culture
ça sera un super
du sport
sujet.
Auto.
Ça
oui,
sera
tout
un super
à fait.
Sujet.
Au Maroc,
où est-ce qu'on
etc.
pourrait aller
bien
ouais.
sûr, tout à fait. Donc là, on attend, nous, que ça. Mais quand tu regardes bien autrement... je crois qu'on a vraiment fait le tour de la question. Alors il y a des pays qui refrappent à la porte comme la Malaisie, on parle de peut-être de l'Indonésie, enfin il y a des pays maintenant qui ont envie de la Formule 1, c'est normal, mais il n'y a plus de grandes percées à réaliser. On arrive à un point d'équilibre, à une saturation qu'on dit, et Verstappen est là-dedans et il n'est pas champion du monde, il ne va pas être champion du monde cette année au bout d'un
suspense, d'un incroyable,
suspense, voilà,
d'un
incroyable.
Mano à mano.
Et c'est ça
qui le dessert un petit peu.
Complètement.
Exactement. Alors, on va justement s'intéresser maintenant à qui pourrait terminer deuxième du championnat derrière Max Verstappen. Parce que on l'a dit, on l'a répété, ce week-end au Qatar, a priori dès samedi. Loupez pas le rendez-vous si vous voulez être là au moment où les points déterminants seront inscrits. Ça sera samedi lors de la course sprint. On va se demander avec Stéphane qui va être vice-champion du monde. Je rappelle rapidement le classement. Donc, on ne parle pas de Max Verstappen. Le deuxième du championnat s'appelle Sergio Pérez, il a 223 points. Lewis Hamilton est troisième avec 190 points, donc il y a 33 points de retard pour le Britannique par rapport au Mexicain. Fernando Alonso, quatrième, 174 points. Carlos Sainz Jr., 150 points. Et enfin Charles Leclerc, 135 points. Il a quasiment 90 points de retard par rapport à Sergio Pérez. Première petite chose, Stéphane, avant qu'on vous dise, nous, qui, chacun de nous deux d'ailleurs, qui sera vice-champion du monde. Stéphane, un petit exercice d'arithmétique. Ça aurait donné quoi le championnat si Max Verstappen n'avait pas été présent en 2023? Est-ce qu'il y a des surprises?
Aucune.
Ah bah voilà.
Non, je me posais la question, donc j'ai fait le calcul.
On se posait la question tous les deux.
Pour vous dire, si Verstappen n'existait pas dans ce championnat, avec une seule Red Bull hein, évidemment, quel serait le classement, le top 8? Eh bien, on retrouve en fait dans le même ordre les huit suivants de Max Verstappen au championnat, c'est-à-dire Perez, Hamilton, Alonso, Sainz, Leclerc, Norris, Russell et Piastri, dans cet ordre, avec des écarts de points qui reflètent le classement réel avec Max Verstappen aujourd'hui, pour une raison assez simple, c'est que quand Max Verstappen ne gagne pas, celui qui a le plus à gagner dans l'histoire, c'est souvent Pérez, puisqu'il a fini 4 fois deuxième. Donc ouais. C'est lui qui récupère le plus souvent le pactole, les fameux 7 points qui séparent la victoire
de la deuxième place,
plus quelques meilleurs tours en course aussi quand il a fait le deuxième meilleur tour en course derrière Verstappen, puisqu'on a compté ça aussi, en plus des résultats sur les courses sprint. Mais globalement, on a la même hiérarchie, forcément, puisque derrière, les autres gagnent 3 points, 2 points ou 1 point. Ça se joue à ça, à peu près. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose de cohérent et que, pour l'instant, la mathématique nous dit que Pérez mérite sa deuxième place. Qu'en est-il réellement? Ou qu'est-ce qu'on aimerait voir
à la deuxième place?
Ou quel est notre
pronostic? Alors, qui commence? Parce que
on
n'a pas échangé là-dessus. On a donné notre idée à Marion Rabot, qui gère ce podcast aujourd'hui, qui ne nous a pas donné trop d'informations, en disant non, confrontez-vous. Alors, tu commences ou je commence?
Alors, qui sur le podium du championnat? J'attends ton...
Alors, moi, je pense que Sergio Pérez va conserver la deuxième place, qui va terminer vice-champion du monde, et je pense que Lewis Hamilton va terminer à la troisième place. La seule différence, c'est un petit peu plus loin, mais après ça devient un peu compliqué. Pour l'instant, Fernando Alonso est quatrième, mais pour moi, Fernando Alonso va dégringoler dans ce classement. Et toi, Stéphane, qui vois-tu en tant que vice-champion du monde derrière Max Verstappen en 2023?
Alors, derrière Max Verstappen champion du monde 2023, je vois Lewis Hamilton
doublé
pour la deuxième place, Perez qui serait rétrogradé à la troisième. Alors pour différentes raisons, l'expérience d'abord de Lewis Hamilton, son regain d'agressivité qu'on a vu clairement dans l'équipe à Singapour et au Japon, il a dit c'est moi le patron, vraiment.
Clairement.
Et puis l'argument aussi par rapport à Perez, c'est que la Mercedes va évoluer jusqu'à la fin de la saison, il y aura des nouvelles pièces.
Alors, c'est des bons arguments, ça me mettrait presque le doute, mais c'est très bien finalement qu'on n'ait pas la même opinion. Moi, je pense que c'est quand même Sergio Perez qui va garder cette deuxième place. D'abord parce qu'il a quand même 33 points d'avance. C'est un joli matelas. Il ne reste que, entre guillemets, 6 grands prix. Alors, il y a quelques points à aller chercher effectivement en course sprint, mais ça laisse quand même une belle marge. Dans ces 6 dernières courses, il y a notamment ce Grand Prix du Qatar où je pense que dès samedi, Max Verstappen sera titré champion du monde. Et le défi suivant pour Red Bull, c'est de faire ce que l'équipe de Christian Horner n'a jamais réussi à faire, de mettre les deux pilotes aux deux premières places du championnat. Assez curieusement, Red Bull n'a jamais réussi à prendre les deux premières places du championnat et ça va être le dernier challenge finalement qui résiste à Red Bull cette saison. Et là, j'imagine que toutes les ressources vont être tournées. On se souvient que Pierre Vacher nous avait dit on n'a pas suffisamment aidé Checo quand il était en difficulté. Là, je pense que ça va être il faut sauver le soldat Checo. Et moi, je pense que c'est ce qui va permettre à Sergio Perez de conserver sa deuxième place.
Tu veux te mettre à la place à la radio de Giampiero Lambiasse et appeler Max Verstappen, je veux dire, alors maintenant tu vas laisser passer Checo Perez parce qu'il lui faut des points. En plus, c'est terminé deuxième au championnat.
Si tu veux rester vivant, tu peux pas faire ça.
Et même si Helmut Marko est juste à côté en disant oui, je valide, il le fera pas.
Mais non, clairement. Helmut Marko, il sait toujours pas que le Mexique, c'est pas en Amérique latine.
Alors, c'est ce que j'allais te donner comme argument supplémentaire par rapport à Lewis Hamilton qui plaide pour une deuxième place de Lewis Hamilton au championnat. Pour moi, justement, 33 points, c'est rien à récupérer par rapport à ces 6 courses qui restent à disputer, par rapport à ces 3 courses sprint aussi.
Ça fait 24 points à accumuler, les 3 courses sprint.
Pardon. C'est que quand je te dis que la Mercedes va évoluer, la Red Bull ne va pas évoluer. Et pour l'instant, elle ne convient pas et ne va pas convenir à Checo jusqu'à la fin de la saison. Elle est survireuse, elle est faite pour Verstappen, il s'en sort de moins en moins. Et puis, il y a surtout l'argument qu'il est complètement tétanisé, il s'écroule véritablement. J'attends de voir le Grand Prix du Mexique, parce que là, la pression va être démentielle. J'ai peur pour lui, honnêtement.
Et justement, on y va au Mexique.
Et par contre,
il va jouer à domicile, il va être galvanisé devant son public.
En termes de consignes d'équipe, je pense que chez Mercedes, ça va être clair. Ils ont une priorité, ils ont dit très clairement, c'est le championnat constructeur, la deuxième place, c'est celle qui rapporte des points, tout simplement, puisque des places au championnat pilote ne rapportent rien. La redistribution des gains aux équipes est faite en fonction
du classement des constructeurs.
Et Mercedes a dit, notre priorité, c'est ça, et plus que ça, c'est qu'on construira nos stratégies de course par rapport à Ferrari. C'est ça qui est incroyable. Et s'il faut ensuite donner des consignes, je pense que Lewis Hamilton sera privilégié parce que ça fait quand même bien dans la vitrine quand on n'a pas gagné de dire on fait quand même deuxième au championnat pilote et deuxième au championnat constructeur.
Alors moi, je pense qu'au Mexique, comme je le disais, Sergio Perez va être galvanisé. De toute façon, il n'a plus trop le choix maintenant. Il a obligation de résultat parce qu'il y a Liam Lawson qui est rentré dans l'équation dans le clan de chez Red Bull. Et puis honnêtement, oui, alors on l'a vu avec un regain d'agressivité, c'est vrai, notamment à Singapour où il est allé chercher le podium, à Suzuka où il a bataillé. Je vois pas Lewis Hamilton se faire
33 points, je te rappelle. Hein.
Se faire la peau pour aller chercher une deuxième place au championnat alors qu'il est septuple champion du monde. Je sais pas, on verra, mais je trouve ça très intéressant qu'on n'ait pas le même avis. Et je suis persuadé que les gens qui nous écoutent ou qui regardent cet extrait ont eux aussi leur opinion. Peut-être qu'ils se disent, il va y avoir un regain de forme incroyable et que Fernando Alonso va revenir et terminer à la deuxième place du championnat, ou bien que ça y est, Carlos Sainz est élancé et qu'il va aller chercher cette deuxième place du championnat. Un petit hashtag les fous du volant, vous nous dites ce que vous en pensez. On est preneur, non seulement ça nous intéresse, mais on est carrément preneur de votre opinion.
Je suis d'accord avec toi pour la quatrième place. Je pense que Alonso ne la conservera pas et que elle reviendra à Sainz. Même si l'écart de points est encore un petit peu
24 points.
Conséquent, mais 24 points, il faut quand même aller chercher. Mais Nando est maintenant tellement nulle part que ça peut le faire pour Sainz sans problème.
Voilà donc ce qu'on pouvait vous dire à l'issue de ces fous du volant pré-Grand Prix de Bahreïn. La dernière information qu'on peut vous donner, ce sont les horaires de ce Grand Prix de Bahreïn avec un format un petit peu particulier, hein, on vous rappelle, course sprint. Donc, les premiers essais libres vendredi à 15h30. La qualif directement vendredi à 19h. Attention, vous ne trompez pas, c'est la qualif qui donnera la grille de départ du Grand Prix dimanche. Samedi, journée autonome, hein, avec la qualif pour la course sprint, ce qu'ils appellent le sprint shootout à 15h, et la course sprint donc à 19h30. Autrement dit, à 20h, on connaît le nom du champion du monde 2023, c'est pas la peine d'attendre dimanche, ça sera trop tard. Le Grand Prix, lui, aura lieu dimanche à 20h.
Cette deuxième journée, franchement, elle m'a fait une impression très bizarre. On refait une qualif le samedi. Tout de suite, comme si on n'avait pas bien compris ce qui s'était passé la veille dans la qualif normale, si c'est tu veux. Vrai. Et puis, on fait une course au sprint qui est un preview, en fait, de ce qu'on va voir le lendemain sur le premier relais, qu'est-ce que ça donne, etc. Elle sert au moins à une chose, c'est que les écuries ont du mal à faire enquiller des tours pour voir ce que donne un premier relais, donc ça a ce mérite-là, mais il est limité quand même.
Exactement. Moi, ça me fait un peu penser à la Marina en plastoc à Miami, tu vois, c'est le truc qui.
Mais moi,
qui
je trouve ça kitsch et marrant quand même.
Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles si vous avez passé un bon moment avec nous et aussi à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Stéphane, direction le Grand Prix du Qatar à Loseille. Et puis on se retrouve.
C'est ça. C'est pas Bakou là.
Non.
Il y a Bakou et Loseille.
Et Loseille. Eh ouais.
Attention,
il faut tout pour faire un monde. Je suis sûr qu'en Formule 1, on préfère Loseille à Bakou. Allez, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là,
on coupe le contact.